Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle chronique de Maître Marie cette semaine. Et on va parler de droit de la famille pour une fois. Alors j'ai vu passer cet été une proposition de loi favorisant l'émergence d'un modèle de coparentalité dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Rien que ça. Alors, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est une notion pilier en droit de la famille, et elle reste pourtant mal définie. Elle consiste à faire systématiquement prévaloir l'intérêt d'un enfant face à des intérêts concurrents, notamment ceux de ses parents ou des tiers. En France, l'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 intègre pour la première fois cette notion. Il confère aux défenseurs des droits l'objectif de défendre et promouvoir non seulement les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, mais également son intérêt supérieur. Quant au préambule de la Convention internationale des droits de l'enfant, il affirme que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans son milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. La notion apparaît dans le Code civil. S'agissant des dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, l'article 372 du Code civil dispose « Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale. Dans l'hypothèse d'une séparation, cet exercice est sans incidence, les parents étant dans l'obligation de maintenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. » Donc vous voyez, ça reste une notion très subjective qui va permettre au juge d'avoir un large pouvoir d'appréciation des faits. Et donc cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant, eh bien, elle semble aussi commander à ce nouveau projet de loi. L'article 1er de la proposition de loi établit une présomption légale de résidence alternée permettant au juge d'évaluer prioritairement la possibilité de prononcer une résidence alternée lors d'un litige sur le mode de résidence de l'enfant et à la demande de l'un des deux parents. Alors, le texte applicable actuellement. Il est rédigé comme ceci. C'est l'article 373-2-9 du Code civil et il est rédigé « En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. À la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence. Voilà. » Donc, actuellement, on est sur du peut-être. Dans le nouveau texte, on lirait, et vous allez voir que c'est complètement différent, la nouvelle version, ce serait « En l'absence de preuves du contraire et en application des articles 373-2-7 et 2-8, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant afin de recevoir les soins, l'éducation, l'instruction et l'assistance morale de chacun des parents, de maintenir des rapports équilibrés et réguliers avec chacun d'eux, ainsi que de conserver des relations de nature équivalentes avec les ascendants et les membres de la famille de chaque branche parentale. À cet effet, le juge fixe une modalité de résidence alternée. Lorsque le juge estime que la modalité de cette alternance est limitée dans le temps, en particulier du fait de l'âge de l'enfant, il le précise sous forme de décision provisoire ou bien prévoit une autre modalité à échéance définie. Lorsque l'enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge motive spécialement sa décision. » Alors, outre le fait que le nouvel article sera vachement plus indigeste que l'ancien, vous avez compris que la résidence alternée devient le principe et la résidence habituelle chez un parent l'exception. Alors, qu'est-ce qui vient fonder ce projet, cette proposition de loi ? À la lecture du texte, je vous dirais déjà une bordée de statistiques, parce que si vous allez lire l'introduction à la proposition de loi sur le site de l'Assemblée nationale, vous allez avant tout voir des chiffres. Et on vous affirme donc 2,7% des moins de 18 ans en résidence alternée, 3,7% des enfants nés en 2006, mais moins de 2% chez les ménages les plus modestes, 4% en Ariège, 0,4% à Mayotte. Tout ça pour en conclure que du pourcent, mais le recours à la résidence alternée est de plus en plus fréquent, mais que la garde exclusive est encore octroyée dans une large majorité aux maires. Alors, juste petite parenthèse, mesdames, messieurs les députés, garde exclusive, ça se dit plus trop. Hein. Aujourd'hui, on parle de résidence habituelle de l'enfant, mais tout le monde ne fait pas du droit, et c'est sa joie. L'introduction de la proposition de loi nous dit que, je cite, « Les Français aspirent à l'émergence d'un nouveau modèle de parentalité permettant aux parents d'entretenir des liens forts et réguliers avec leur enfant afin qu'ils reçoivent les soins, l'éducation, l'instruction et l'assistance morale de chacun d'eux. Il est évident que l'entretien de ces liens, est dans l'intérêt de l'enfant et cet intérêt commande l'émergence de ce modèle de coparentalité. » Alors, j'aime le mauvais esprit, la taquinerie, vous le savez, et j'aurais tendance à dire que la résidence alternée étant déjà prévue par les textes, et si les Français aspiraient à un nouveau modèle, est-ce qu'on avait besoin de légiférer à nouveau et d'imposer ce modèle ? Par ailleurs, lorsque vous discutez avec des pédopsychiatres, selon l'âge de l'enfant concerné, leur avis reste quand même très partagé sur le fait d'imposer à l'enfant la résidence alternée. Et l'introduction de la proposition de loi de poursuivre d'un ton martial l'émergence d'un modèle de coparentalité dans l'intérêt supérieur de l'enfant commande l'établissement d'une présomption légale de résidence alternée. Cette présomption présente deux bénéfices, la détermination de la charge de la preuve et la réduction des contentieux. Vous avez remarqué que quand on lit le texte, ça commande beaucoup. Bon. Alors donc, premier bénéfice de l'établissement d'une présomption, fixer la charge de la preuve. Si on crée une présomption légale de résidence alternée, il appartiendra aux parents qui refusent ce mode de résidence de prouver que ce mode de résidence de l'enfant est contraire justement à l'intérêt de l'enfant. Ce ne sera plus à celui qui la demande de justifier pourquoi c'est bien. On inverse les rôles au niveau de la charge de la preuve. Second bénéfice, selon l'introduction de la proposition de loi, les pays qui ont opéré cette réforme notent un accroissement de la demande des parents vers une résidence alternée. Bah, c'est-à-dire que, de toute façon, au menu, que quand tu n'as qu'un choix, le choix est vite fait. Donc, si on te l'impose, effectivement, les demandes vont augmenter. Et de nous dire ensuite que, lorsque le législateur consacre une présomption légale de résidence alternée, alors celle-ci agit comme un repère dans la société et les parents qui se séparent optent plus facilement d'eux-mêmes pour ce mode de résidence de l'enfant et par conséquent réduisent le nombre de contentieux. Moi, j'aime beaucoup le « d'eux-mêmes », genre comme des grands quand tu leur imposes, tu sais, mais d'eux-mêmes, ils y vont tout seuls. Puis finalement, quand même, nous y voilà. Ça réduit le nombre de contentieux et ça, c'est bon pour les statistiques. Plus de contentieux, les dossiers, ça dépote, plus d'avocats et là, paf, les super annonces, diminution de la durée du traitement des autres procédures, diminution du taux de contentieux, magie. Mais mon passage préféré de l'introduction, je crois que c'est celui-là. Alors accrochez-vous parce que le paragraphe, il est quand même costaud comme les autres. Cette proposition de loi tient à mettre l'accent sur la responsabilisation des parents, ce qui est parfaitement illustré par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 septembre 2012, dans lequel le juge indique qu'il appartient aux parents, ouvrez les guillemets, séparément mais aussi en concertation, de faire en sorte que cette résidence alternée ne fasse pas émerger de nouveaux problèmes au détriment des enfants. Ils doivent viser à réduire et en tout cas laisser les enfants à l'écart de leurs propres conflits. Ils doivent rechercher d'un commun accord le ou les établissements scolaires les plus appropriés au regard de leurs adresses respectives, mais également de leurs contraintes horaires de travail. Chacun doit être très attentif au respect des droits de l'autre parent, mais aussi à ne pas détériorer l'image de l'autre parent, voire des grands-parents vis-à-vis des enfants. Privilégier la résidence alternée, c'est porter une responsabilité sur les parents qui doivent œuvrer pour que ce mode de résidence de l'enfant se passe dans les meilleures conditions, et ce, dans l'intérêt de l'enfant. Et me viennent donc ces questions. D'où parce que tu imposes, tu responsabilises. D'où parce que tu imposes, c'est mieux accepté. Est-ce que déjà le but des parents ne devrait pas être de réduire et en tout cas laisser les enfants à l'écart de leurs propres conflits? Et ça, très clairement, c'est pas une affaire de justice. Moi, je lis une contradiction quand on me dit que privilégier la résidence alternée, c'est porter une responsabilité sur les parents qui doivent œuvrer pour que ce mode de résidence de l'enfant se passe dans les meilleures conditions. Autrement dit, parce qu'on va imposer un système de résidence de l'enfant et accentuer la responsabilité des parents, leur dire ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent assumer, alors on va régler tous les problèmes. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, hein, c'est qu'on vous dit que la proposition de loi, parce qu'on va imposer la résidence alternée, on va tout régler. Si ça marchait comme ça, ça serait bien plus simple. Et parce que les modalités, finalement, existent déjà, il n'y aurait pas autant de conflits. Est-ce que parce que la loi l'impose, les mamans vont plus lâcher les enfants et les papas être plus en demande? Alors, je suis ni pro-papa, ni pro-maman, et dans ma clientèle, j'accompagne autant de pères que de mères. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais imposer finalement un système en se disant qu'on a tout bien défini sur les obligations des parents, en appeler à la responsabilité individuelle des parents, il ne faut pas que ce soit régler les problèmes sur le papier comme par magie, alors que dans les faits, ils peuvent perdurer. Moi, je pense que si on veut influencer, notamment par la législation, notre modèle sociétal et notamment en termes de coparentalité, il faut davantage se soucier de donner du temps aux parents, notamment aux pères, pour tisser le lien avec les enfants dès le plus jeune âge. Et c'est ce que tend à faire l'article 2 de cette proposition de loi qui prévoit un allongement du congé paternité. L'article 2 porte le congé paternité de l'accueil de l'enfant à 21 jours et le congé de naissance à 5 jours. L'article 3 engage le gouvernement à augmenter chaque année le congé de paternité de 4 semaines jusqu'à ce qu'il atteigne en fait 16 semaines, comme pour les mères. L'introduction de la proposition de loi nous parle d'égalité homme-femme, de non-discrimination des femmes, mais je crois surtout que, comme je le disais, c'est de pouvoir permettre aux pères de prendre toute leur place et donc d'aller vers un modèle qui va bien davantage favoriser la coparentalité que d'imposer des modalités de résidence en cas de séparation. Parce que la loi, là, nous prévoit les sparadraps quand les parents se séparent, mais pour l'instant, on n'a encore rien fait quand ils font ensemble, et ce n'est pas forcément la meilleure idée qu'on ait d'arriver en mode pompier qui impose des règles au moment de la séparation. Alors ça, c'est mon avis, mais vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à commenter et débattre sur cette chronique sur la page Facebook d'Esprit Occitanie. J'aurai grand plaisir à vous lire et vous répondre. On se retrouve la semaine prochaine.
Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans la Casa de Ebel. Pour commencer cette nouvelle émission de la saison numéro 2 du Patchwork, notre émission nourricière, je vous propose au programme les rubriques habituelles. Tout d'abord, je répondrai au quiz de la semaine dernière. Ensuite, je vous ferai un point boursier. Aujourd'hui, je vous propose un retour en arrière de quelques années pour vous parler de Nokia, l'histoire d'un géant déchu. Et pour finir, je vous poserai un nouveau quiz, le quiz de la semaine. C'est parti pour une nouvelle pause dans la Casa de Ebel, avec la réponse au quiz de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à me fournir la bonne réponse. Et le premier à m'avoir fourni cette réponse est un certain monsieur Warren B., qui réside à Omaha, dans le Nebraska. Eh oui, Esprit Occitanie est également écouté outre-Atlantique et par des personnes importantes. Mais le chiffre qu'il fallait trouver était bien entendu 25%, qui représentait le poids de France Télécom au sein du CAC 40, au plus haut de la bulle Internet en mars 2000. Nokia, l'histoire d'un géant déchu. Qui aurait pensé que l'ex-leader du téléphone portable soit parti d'un simple moulin à eau perdu au milieu des forêts finlandaises ? Nokia, qui fut créé en 1865, testa de nombreuses activités diverses et variées. Je vous propose une plongée au sein de cette entreprise qui domina sans partage le monde du téléphone portable à ses débuts. Papier toilette, boîte en caoutchouc, téléviseur. Nokia aura longtemps cherché avant de trouver l'activité qui le fera vraiment décoller. Et ce fut le téléphone mobile. Retour sur les principales étapes de la vie de ce fleuron finlandais. C'est à l'embouchure de la rivière Nokianvirta, au sud-est de la Finlande, à 200 km au nord-ouest de la capitale Helsinki, que l'ex-leader du mobile doit son nom. Construit sur ses rives, le moulin à papier de l'ingénieur Fredrik Idenstam utilise son eau et les forêts alentour pour produire du papier, et ceci dès 1865. Au début du XXe siècle, on trouve même des rouleaux de papier toilette estampillés Nokia Silk. L'eau de la rivière, Nokianvirta, permet certes de produire du papier, mais également de l'électricité, qui devient très vite le deuxième pan d'activité de Nokia AB. En 1898, soit 3 ans après le départ de son fondateur, l'entreprise est rachetée par un fabricant de caoutchouc, vendeur de pneus et de bottes, qui acquiert quelques années plus tard une société de câbles électriques. C'est l'occasion pour Nokia de transporter son électricité et de participer ainsi au développement des réseaux de téléphonie fixe. Fort de son réseau d'électricité, Nokia se fait équipementier sur le marché des télécoms. Les 3 entités fusionnent et le groupe touche à tous les produits électroniques d'après-guerre. Téléviseurs, micro-ordinateurs et bientôt téléphones mobiles. Si les 2 premières activités ne résistent pas à la concurrence étrangère et vivotent jusqu'à leur cession au début des années 1990, le Finlandais tient bon avec la téléphonie mobile. Le fleuron technologique finlandais se désengage peu à peu de ses activités historiques, tandis qu'il perce dans le mobile. Et le célèbre coup de fil de Mikhail Gorbatchev à son ministre des Communications y participe. En effet, sous les caméras finlandaises, le secrétaire général du Parti communiste de l'ex-Union soviétique utilise le Mobira Cityman 900, le premier téléphone portable commercialisé par Nokia, qui ne ressemble pas à une valise et qui fut lancé en 1987. Après le Mobira Cityman 900, surnommé Gorba, depuis l'appel du leader soviétique, viennent en 1992 le Nokia 1110, depuis lequel partent les premiers SMS, puis le Nokia 8110, utilisé notamment pour les cinéphiles par Morpheus pour joindre Neo dans Matrix. Et ceci en 1996. Le groupe s'est définitivement lancé dans la course au mobile, toujours plus petit et toujours plus léger, et devient même le leader du secteur en 1998 avec plus de 30% de parts de marché. Un statut que le Finlandais conservera pendant 10 ans. En bourse, les actions Nokia s'envolent, à tel point que l'action Nokia représentera à son plus haut historique près de 70% du poids de l'indice phare de la bourse finlandaise. Et c'est le Nokia 3310 qui restera le best-seller des mobiles de son époque, avec plus de 126 millions d'exemplaires vendus entre 2000 et 2005. Nouveau sommet, le Finlandais détient, fin 2007, une part de marché d'environ 40% des ventes mondiales de mobiles. Mais cela ne lui suffit pas. Il crée donc une co-entreprise avec Siemens dans le secteur des équipements télécoms, nommée Nokia Siemens Network. Mais 2007 est aussi l'année du lancement de l'iPhone, qui causera la perte de Nokia. Effectivement, ces ingénieurs ne croient absolument pas au tactile et continueront à développer le système d'exploitation de la marque jusqu'en 2011, soit 4 ans plus tard. Date à laquelle ils adoptent finalement le système Windows grâce à un partenariat signé avec le géant de Redmond. Et pour finir cette parenthèse inattendue, je vous propose un quiz aérien. Le 8 mai 1927, un avion biplan avec ses deux pilotes à bord, Charles Lingesser et François Colly, disparaissait lors de la première tentative de traversée de l'Atlantique. Quel est le nom de cet avion ? C'était la Casa de Ebel. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos réponses au quiz de la semaine. À la réalisation, Yanis, qui nous accompagne au cours de cette nouvelle saison.
Bonjour chers auditeurs et chers collègues de l'émission Patchwork. Dans cette chronique Happy Work, nous allons continuer d'évoquer le sujet de la révolution du télétravail que nous avions commencé à aborder la semaine dernière. Après vous avoir présenté l'historique du télétravail et ses côtés un peu limitants, je vais aujourd'hui explorer ses aspects positifs qui nous permettront de comprendre l'intérêt qu'il suscite de jour en jour dans le contexte actuel. Avant l'épisode du Covid, si environ 20% des Français avaient déjà recours au télétravail de manière occasionnelle ou plus régulièrement, seulement 6% l'effectuaient de façon contractualisée, c'est-à-dire que leur contrat de travail stipule explicitement les modalités de son organisation. Depuis la fin du confinement, les demandes des salariés pour, entre guillemets, officialiser l'instauration de jours de télétravail dans leur entreprise ne cessent d'augmenter. En effet, ce qui fut un passage obligé pour beaucoup d'entre eux durant le confinement a révélé une très forte résonance avec l'amélioration de la qualité de vie. Fini le stress des embouteillages ou des heures de transport collées serrées le matin, fini la pollution, fini dans une certaine mesure les contraintes horaires de l'école ou de la garderie, le télétravail a cet avantage certain de permettre la réduction de l'absentéisme et des retards. D'ailleurs, la réduction des temps de trajet représente pour 55% d'entre eux la raison pour laquelle ils aimeraient bénéficier du télétravail. Et en moyenne, le temps gagné par jour sur le temps de transport domicile-travail est de 80 minutes. Les ventes de maisons à la campagne ont explosé ces derniers mois et les citadins ont véritablement pris conscience des avantages à vivre hors des villes, dans des espaces nécessairement réduits car chers, où la qualité de vie n'est vraiment pas optimale. Mieux vaut donc utiliser les temps de transport à s'occuper de sa famille, faire du sport, du jardinage, du bricolage, dormir et retrouver une certaine sérénité mentale. On voit pour preuve que 60% des télétravailleurs indiquent percevoir une amélioration de leur stress. Leur temps de pause imposé pendant le confinement a permis à de nombreuses personnes de lever le pied, de se reconcentrer sur des choses essentielles comme la vie de famille.
La souplesse de pouvoir s'organiser selon son rythme ou ses contraintes est très confortable et beaucoup moins culpabilisant que lorsqu'on rase les murs en partant parce que l'on doit aller chercher ses enfants à l'école. Vous avez envie de faire une pause sieste de 20 minutes après votre déjeuner ? Personne n'y trouvera à redire et vous améliorez en plus votre efficacité pour le restant de la journée. L'efficacité, justement, est d'ailleurs le maître mot du télétravail. On peut s'organiser comme on veut et cerise sur le gâteau sans être interrompu toute la journée par les apparitions et les parasitages de ses collègues ou de son chef. L'entreprise y gagne aussi, car 60% de celles qui ont mis en place le télétravail constatent des gains de productivité. A contrario, le salarié devient responsable à 100% de son travail. Il n'a plus d'excuses pour accuser les autres, enfin ses collègues, et il est complètement autonome. C'est à lui de gérer les sources de distraction qu'il pourrait avoir autour de lui à la maison. À lui également de définir ses horaires afin de respecter son contrat de travail et réaliser les tâches qu'on lui demande. À lui enfin d'organiser sa journée sans oublier les plages collaboratives, c'est-à-dire les temps de réunion en visioconférence, par exemple, avec son équipe, ses collègues ou son manager. Et ces moments de partage professionnel sont extrêmement importants pour lutter contre l'un des risques majeurs du télétravail, à savoir l'isolement. Le moral peut être vite atteint si le collaborateur se sent livré à lui-même, sans objectif parfaitement défini, sans priorisation des tâches, sans cette émulsion et ce foisonnement d'idées qu'on peut avoir en réunion, sans la convivialité qu'on peut trouver à la machine à café. D'ailleurs, je connais des entreprises qui ont instauré des cafés en ligne tous les matins pendant le confinement pour permettre à tous les salariés d'un service de pouvoir se retrouver en ligne de façon informelle et facultative, bien sûr, avec leur propre boisson en main et partager leur quotidien, leurs craintes, leurs idées pour mieux vivre ce temps si particulier. Dans le même esprit et dans le cadre de mes activités concernant le bien-être au travail, j'ai eu l'occasion d'identifier ou de mettre en place de nombreuses initiatives pour animer les équipes à distance avec des challenges, des jeux, des vidéos informatiques, etc. Plein d'idées. Il faut une bonne dose d'autodiscipline pour tirer bénéfice du fonctionnement en télétravail. Et le plus surprenant est que l'on a constaté que les salariés qui avaient dû rester chez eux pour la première fois pour travailler avaient des horaires bien plus étendus que lorsqu'ils se déplaçaient. Une certaine forme de culpabilité les incitait à être davantage à leur poste de travail, à montrer qu'ils n'étaient pas sans rien faire. Professionnellement, le télétravail permet aussi aux entreprises de faire des économies, particulièrement sur les dépenses de loyer, de charges de maintenance ou d'électricité, grâce à l'utilisation d'espaces moins grands. Un bureau utilisé par différentes personnes qui ont des jours de télétravail différents devient beaucoup plus rentable, car les mètres carrés sont chers, voire même excessifs dans certaines agglomérations. Pour aider ceux qui, parmi vous, travaillent ou sont régulièrement en télétravail, voici deux règles à respecter que je vous propose pour télétravailler sans stress. La première, c'est d'organiser votre espace de travail. Vous avez vu la limite de l'ordinateur posé au milieu de la cuisine, à côté de vos enfants qui font leurs devoirs ou qui ont décidé de faire des activités créatives de peinture ou de cuisine. Non, il vous faut impérativement un endroit calme, isolé du bruit et des sollicitations familiales et qui est suffisamment bien équipé pour vous permettre de travailler de façon sereine et confortable. Les ventes d'imprimantes, ou de chaises ergonomiques ont d'ailleurs grimpé en flèche avec la mise en télétravail de beaucoup de salariés. Également, un lieu avec suffisamment de luminosité, etc. Deuxième règle, organisez votre temps avec des plages horaires réalistes et en lien avec celles de votre entreprise quand même. N'oubliez pas les moments de pause, car être devant un ordinateur toute la journée est très fatigant pour les yeux. Pensez à marcher, à faire quelques exercices d'étirement, à vous aérer en extérieur si possible. En résumé, le télétravail pour moi est un mode de fonctionnement qui n'est pas nouveau, mais qui a vu sa pratique exploser en raison du coronavirus. Il y a de nombreux avantages vraiment tant en termes d'efficacité et d'économie qu'en termes d'amélioration de la qualité de vie ou de la baisse du stress. Il est toutefois nécessaire d'accompagner ses salariés lorsqu'on met en place cette pratique, afin de leur permettre d'être bien équipés, qu'ils se sentent suivis et qu'ils aient le sentiment de toujours faire partie d'une équipe. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite une très belle journée avec Esprit Occitanie.
Bonjour chers auditeurs, Monique Marc pour la rubrique La lectrice d'Occitanie. Cette semaine, je vous fais découvrir un chapitre intitulé Les Catcheurs du roman Superman ne volera plus de Gilbert Noguès aux éditions Cairn. Débutons d'abord par un couplet d'une chanson des frères Jacques, Les Catcheurs.
On dit la même élan et flan, c'est ce qui s'appelle sauter sur le client. Et là, voilà pour commencer.
Consuelo a posé son large séance sur le lit en vrac de mon frère et a entrepris le feuilletage de l'album qui reposait sur la brique. Debout sur le lit, je m'attarde sur la photo. Ce qui me surprend le plus, outre l'accoutrement outrancier des quatre protagonistes, c'est surtout la différence de morphologie entre les trois plus baraqués et le gringalet qui les accompagne. Malgré le masque dont il est affublé, j'ai vite fait de comprendre qu'il s'agit de Georges, de mon propre frère. Le poing enfermant une grenade tatouée côté cœur ne laisse aucun doute. L'image provient d'un magazine. Je tente néanmoins de déchiffrer la légende et j'en appelle à la sagacité de Consuelo. Comme il ne serait pas recommandé de l'inviter à se tenir debout sur la couchette de Jojo, je décroche le cadre et le lui tends. Je l'entends marmonner une litanie espinguine à laquelle je n'entrave que quick. Finalement, elle m'en fait un résumé. Ton frère, mon Jojo, était un catcheur reconnu au Mexique. Il s'appelait, se faisait appeler, Jorge Granada. Et il se battait pour la bonne cause. Je me suis assis à côté d'elle et mes yeux ne quittent pas le masque qui couvre le visage de Georges. Seul, deux yeux pétillants émergent d'un masque de cuir noir en forme de grenade. Il combattait pour les enfants d'un orphelinat en compagnie de Fray Tormenta. Elle pointe du doigt celui qui paraît le plus âgé de la troupe, un masque fait de pétales d'or, les yeux et la bouche cernée d'un graphisme rouge qui rappelle les cornes du diable. L'article dit que c'est un ancien alcoolique qui s'est reconverti dans la prêtrise et qui a ouvert un orphelinat, la Casa Hogar de los Cachorros de Fray Tormenta. Mes yeux se mouillent, brouillant ma vision. Incidemment, une larme commence à couler le long de ma joue. Je la stoppe du revers de ma main. La maison des petits chiots de Fray Tormenta, on pourrait le traduire comme ça, me précise-t-elle, tout en jetant un regard vers Spartacus, qui n'a pas bougé d'une roulette ni d'un poil. Feignant de ne pas remarquer l'état dans lequel je me trouve et notre chien persistant dans son silence, elle poursuit. Ils faisaient souvent équipe avec Jorge Granada et El Pantera au profit de l'orphelinat. C'était un très grand luchador qui arrachait les masques de ses adversaires. Elle me cite à la volée les noms de ses adversaires vaincus. El Sepulturero, El Hechicero, Hijo de Judas et Bungabilia. L'énoncé de ces patronymes qu'elle me traduit me ramène un peu de gaieté. Je lève la tête vers les masques encore accrochés au mur. Je devine qu'ils doivent correspondre à des trophées arrachés de juste lutte par mon frère de la tête de ses adversaires. Je lève mon poing et me lance dans la seule phrase d'espagnol que je connaisse. Hasta la victoria siempre. Consuelo, ne corrigeant pas ma prononciation, je me laisse aller. El pueblo unido jamás. C'est bon, on a compris. Regarde plutôt ça. » Sur ses genoux, elle a ouvert le gros album qu'elle se propose de me faire découvrir.
« Libro 33, años 2017. »
Livre 33. Ton frère tenait un putain de journal annuel de tout ce qu'il faisait. C'est celui de la dernière année. Il est écrit en espagnol jusqu'au 23 septembre 2017. Ensuite, c'est en français. Ensemble, nous découvrons des moments de l'aventure mexicaine de Jojo. De Jorge, en fait. Des coupures de presse, des tickets de spectacle de lucha libre dans différentes salles, des flyers, des cartons d'invitation dans des soirées de charité. Et puis de nombreuses photos, parfois en civil, parfois en costume de combattant. Souvent avec Fray Tormenta et de jeunes enfants. Je me rends compte de la ressemblance incroyable entre nous deux. Je n'avais pas ce souvenir. Notre différence d'âge l'a masqué sans doute, et puis je l'avais perdu de vue très vite, trop vite. Les pages que Consuelo tourne me révèlent un pan de la vie de mon jeune frère. Je prends conscience de l'importance de sa vie, de son engagement auprès des défavorisés. J'en éprouve une grande fierté. Jusqu'à cette image. Oh putain ! Comme Consuelo, qui le manifeste avec son vocabulaire habituel, je reste figée devant ce morceau de plastique transparent sur lequel se détache un crâne vu en tranche. C'est un scanner de sa tête et... Le patronyme complet de Jojo est au-dessus. Hospital General Dr. Gea González. Jojo était atteint d'une tumeur au cerveau. Je blêmis. Le doute s'empare de moi. Et si mon frère s'était suicidé pour échapper à une mort certaine? Et pourquoi est-il revenu mourir en France? À partir de cette image, il écrit tout en français. Regarde. 23 septembre. Ce matin, j'ai eu la confirmation par le docteur Belisario Dominguez de la formation d'une masse de cellules anormales qui comprime une partie de mon cerveau. C'est la cause des douleurs, ces maux de tête que je ressentais souvent le matin, de ces nausées, de tous ces vomissements. Et juste dessous, d'une écriture tremblante, « J'ai un cancer, je vais crever ». Spartacus s'agite et vient gratter les jambes de Consuelo. « Oh le con » peste-t-elle. « Voilà que l'envie de pisser le prend au deuxième étage. Tu peux l'accompagner ?»« J'ai pas forcément envie de me payer une descente et une remontée. Aussi, j'opte pour la solution de facilité qui s'impose à mon esprit embrouillé par ce que je viens d'apprendre. » Je soulève Spartacus et le dépose dans l'évier. La froideur de la céramique le surprend. Je le vois à son regard de cocker triste. Le basset artésien est un très bon imitateur. Il reste ainsi figé quelques secondes, dans l'impossibilité d'accomplir sa miction. Je le sollicite en produisant un sifflement. « Oh les mecs, ça vient, oui ou merde ?» éructe la quintalienne. Spartacus, enfin libéré et revenu au niveau du plancher, je retrouve Consuelo, dont le visage a pris en quelques minutes plus d'une dizaine d'années. Je vois ce visage tendu et livide pour la première fois depuis notre rencontre. Nous partageons la même souffrance. Moi, celle d'un frère que je n'ai pas connu. Elle, celle d'un amoureux parti si loin pour échapper à la prison. 27 septembre. Hier soir, à l'orphelinat, j'ai eu une longue conversation avec Fray Tormenta autour de plusieurs verres de Bacanora, cette liqueur élaborée à base d'agave yaquiana dans la région montagneuse du Sonora. Je lui ai dit que je souhaitais retourner en France pour mourir. Fray a compris mon désir, même si je voyais à la couleur brillante de ses yeux qu'il regretterait mon départ. Là, il parle de toi. Je ne sais plus si j'ai de la famille. Mon frère Gustave est-il toujours du côté de Toulouse? Je dois le retrouver. Est-il vivant? Aujourd'hui seulement, je me rends compte qu'il m'a manqué. Je me laisse aller en arrière et je m'étale de tout mon long sur le lit. Les larmes que je tentais de contenir depuis un moment coulent à flots. Je me tourne sur le côté et j'enfouis ma tête dans les draps à la recherche de sa présence, de son odeur. Je suis abasourdie. La maladie allait nous réunir, et voilà qu'une chute d'un dixième étage nous sépare à tout jamais. Consuelo se blottit contre moi, m'écrasant de toute sa masse. Spartacus geint avant de pousser un hurlement lugubre. Nous avançons dans la lecture du journal de bord. Nous apprenons qu'il a décollé de l'aéroport Benito Juárez de Mexico le 21 octobre à 22h22 pour Madrid et qu'il a atterri à Blagnac le lendemain en fin d'après-midi. 24 octobre. C'est une impression étrange de me retrouver à Toulouse. La ville a changé, mais je retrouve l'essentiel de ce que j'ai laissé il y a plus de 30 ans. L'hôtel Le Pastel est à quelques pas de la gare. C'est là que je suis depuis mon arrivée. Je ne l'ai pas choisi pour son luxe, mais pour son prix très abordable. Le voyage m'a coûté une ruine. Demain, je dois voir pour louer un appartement du côté de Saint-Aubin. 14 novembre. J'ai retrouvé la trace de Gustave. On ne peut pas dire qu'il avait beaucoup d'ambition dans sa carrière professionnelle. Mais j'ai aussi appris qu'il ne faisait plus partie du personnel. J'ai croisé un certain Mediavilla, le délégué syndical de l'entreprise, qui m'a expliqué les raisons de son licenciement et m'a donné une adresse. Demain, j'irai chez lui. Mon frère a tenté de me retrouver. 15 novembre. Ce matin, j'ai eu du mal à sortir du lit. Ma tête était prête à exploser. Le crabe doit s'étendre. Il a plu toute la journée et j'étais trempée en rentrant à l'appartement de la rue de la Colombette. La dame qui m'a reçue à l'adresse indiquée par le syndicaliste m'a dit qu'elle avait cet appartement depuis le mois de mai et qu'elle ne savait pas qui était Gustave Cambolive. J'ai peur de ne jamais le revoir avant de crever. Consuelo tourne les pages. Les moments de doute succèdent aux affres de la souffrance. Jojo ne se plaint jamais. 25 décembre. Ce matin, j'ai envoyé une carte de Toulouse sous la neige à l'orphelinat. J'ai mis au dos tous les prénoms des enfants et je leur ai souhaité un joyeux Noël. J'étais écartelée entre la joie de partager avec eux ce moment et la tristesse de ne jamais les revoir. Ce soir, je suis invitée chez le syndicaliste. C'est un type sympathique, proche de la retraite, avec ses gros sourcils épais qui séparent de son visage en une large barbe poilue. Souvent, nous parlons en espagnol. J'aime beaucoup son humour et il me parle en bien de Gustave. Je n'avais pas beaucoup de rapport avec ce Mediavilla jusqu'au jour où il m'a accompagnée pour mon entretien préalable au licenciement. 29 décembre. J'ai passé une partie de l'après-midi avec mon ami syndicaliste. Carlos, c'est son prénom, m'a dit qu'il avait appris que la direction de l'entreprise organisait une fête costumée le premier samedi de janvier chez le directeur pour fêter les rois. Carlos m'a donné l'adresse d'un immeuble qui donne sur le jardin Compense Caffarelli. J'ai bien envie de m'y inviter. Voilà, chers auditeurs. Vous pourrez retrouver, comme d'habitude, cette émission ce soir à 23h et demain matin à 10h. Je vous rappelle que vous pouvez également réécouter toutes les émissions d'Esprit Occitanie en téléchargeant les podcasts sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour smartphone. À la semaine prochaine !